France Inter. Le 18-20, Fabienne Saintès.
Il a traversé la vie, il a mené sa carrière politique à pas de géant, Jacques Chirac. C'est peut-être une des images qu'on retiendra de lui quand on pense de sa politique, quel que soit le bout par lequel on décide de la prendre. Finalement, il claque des portes, il démissionne, il monte un parti, il creuse sa route, il avance au pas de charge, il renaît quand on croit que c'est fini, il a des coups de sang, des coups de cœur, des coups réussis et quelques coups ratés aussi. On parlera forcément d'un bilan de ces années de président, mais ce qui saute aux yeux, ce sont peut-être des moments, et ce sont ces moments-là que je vous invite à nous raconter ce soir. À quoi ressemble votre Jacques Chirac? Qu'en retenez-vous? En première heure, on va se concentrer sur la politique internationale de Jacques Chirac. Il y a très gros marqueurs dans le temps, grâce à Hubert Védrine qui est là avec nous et que je salue dès maintenant. Vous êtes invités à partager avec nous cette conversation. Soyez les bienvenus dans un téléphone sonne version large et en édition spéciale. Bienvenue.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Dragana, bonjour.
Bonjour Fabienne.
Et on vous écoute, Dragana.
Merci pour votre émission. Eh bien, mon Jacques Chirac, à moi, en parlant de sa politique internationale, c'est celui qui a dit non aux États-Unis. Voilà. Ça m'avait vraiment marqué ce non. Le seul chef d'État occidental, malgré Blair, Aznar et tous les autres qu'on connaît, qui dit non. Et il s'affranchit d'Amérique. Voilà, notre France s'est affranchie d'Amérique ce jour-là.
Merci pour ce témoignage, Dragana. On est en 2003 et c'est vrai que c'est vraiment la première chose qui revient parmi les coups de téléphone qu'on reçoit. Bonsoir Hubert Védrine.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez été le ministre des Affaires étrangères de Jacques Chirac entre 97 et 2002. Donc vous partez
de Chirac et de Jospin.
Absolument, oui, absolument. En pleine période de cohabitation. Vous partez donc juste avant cette période de 2003, mais j'imagine qu'elle effleurait aussi cette attitude qui a été la sienne et quelque chose qu'on sentait, qu'on savait en fait depuis 2001-2002. Qu'est-ce que vous avez vu, vous?
Oui, on le voyait venir, mais je voudrais justement nuancer un point.
Allez-y.
Il n'a pas été le seul à dire non aux Américains. Il y a eu Schröder aussi, le chancelier allemand.
Ben, on y viendra d'ailleurs au rapport avec Schröder.
C'est autre chose.
Ouais.
Et ils n'ont pas réussi à empêcher, je sais bien qu'on adore... vanter le magnifique discours par ailleurs de Dominique Villepin à l'ONU, mais ça n'a pas empêché les États-Unis d'y aller. Donc c'est en même temps, ça montre la limite de l'éloquence, même justifiée, même bien fondée, parce qu'ils avaient raison, tout à fait raison sur le fond. Alors on le voyait avant, d'ailleurs, quand George W. Bush était élu, moi j'étais en tant que ministre à Washington, pour prendre contact avec les nouveaux, etc. Et j'ai dit à Chirac et Jospin en retour, ils vont bien nous embêter parce qu'ils sont obsédés par la question irakienne. Ils veulent se venger, en fait, de toutes sortes de choses. Ils veulent démontrer...
Ils cherchent un coupable.
Ils cherchent un coupable, ils savent bien que c'est pas eux, mais enfin bon, c'est comme dans le western, ils veulent... Il y a quand même, ils ont été défiés, il faut une réplique. Il faut trouver un régime menaçant, répugnant, indéfendable, facile à battre. L'Irak a été tout désigné. Et Jacques Chirac m'a dit, non, oui, on verra, mais enfin, ils sont casse-pieds, quoi. Il est assez américanophile, par rapport au peuple, à la culture américaine, mais pas par rapport au pouvoir américain. C'est autre chose. Il m'a dit, bon, on verra, enfin, on se débrouillera, mais. Donc, ça se sentait dès l'arrivée. Dès l'arrivée, voyez. Mais il n'y avait pas eu le processus qui ne s'est produit qu'après. Donc, ils ont eu tout à fait raison. Sur la forme de la contestation par la France, on peut discuter un peu, mais sur le fond, ils avaient raison. Mais on ne s'est pas affranchi définitivement, puisqu'on reste un pays allié, qui est malheureusement dépendant des sanctions américaines, etc.
C'est sûr qu'on n'a pas rompu nos relations diplomatiques ni autre chose de ce genre à ce moment-là. Jean-Marc Four nous a rejoint autour de la table, directeur de la rédaction internationale de France Inter, Jean-Marc.
Hubert Védrine, dans quelle mesure cette prise de position emblématique sur l'Irak de Jacques Chirac, c'est l'incarnation d'une stratégie pensée de politique moyenne-orientale de la part du président de l'époque, ou dans quelle mesure est-ce une sorte, quelque part, d'intuition, en fait? Quelque chose qui marche au feeling, vous voyez?
Il me semble qu'il appliquait assez une formule que vous connaissez sans doute, qui résume la Ve République, disons jusqu'à Sarkozy, et après, qui est ami, allié, mais pas aligné par rapport aux États-Unis. Donc c'était son comportement sans théorisation particulière. Stratégie, je ne dirais pas ça, mais ça revient au même, parce qu'il connaissait suffisamment le Moyen-Orient et ses tourments pour savoir qu'une invasion en fait, américaine n'allait pas régler le problème, n'allait pas apporter la démocratie en Irak, contrairement à ce que croyaient tous les néoconservateurs des États-Unis, de France. Rappelez-vous que beaucoup de gens en France ont dit que c'est une heureuse mise en œuvre du droit d'ingérence pour apporter la démocratie à l'Irak. Bon, Chirac ne croyait pas du tout à tout ça. Donc il pensait que ça tournerait mal et que ça ajouterait au chaos, en gros. Alors est-ce que ça donne une théorie pour une stratégie pour après? Je n'irai pas jusque-là, parce que personne ne peut avoir de stratégie pour contrôler les tourments du Moyen-Orient. Il n'y en a pas. Mais enfin, ça revient au même, dit en termes plus simples.
Quelque chose de sanguin, d'intuitif aussi. Yael Gauz, qui est aussi là avec nous autour de la table. Yael.
Mais Hubert Védrine, l'un de ses successeurs, François Hollande, disait très récemment, dans l'exercice de son pouvoir, que cette décision de 2003 l'aidait aujourd'hui à tenir une diplomatie indépendante, non alignée, qu'il avait en héritage cette position du non aux États-Unis en 2003, du non à la guerre en Irak, et que ça l'aidait aujourd'hui à mener une diplomatie différente et non alignée. Est-ce que des successeurs de Jacques Chirac ont bénéficié de ce moment de 2003?
Non, à partir de Sarkozy, pour différentes raisons, pas toutes mauvaises, et enfin, il y a un vrai changement. D'ailleurs, Sarkozy avait revendiqué la rupture par rapport à Chirac, mais par rapport à l'héritage de la 5e en matière diplomatique, que les experts appellent parfois le gaullo-mitterrandisme, que Chirac a continué, que moi j'ai pratiqué en tant que ministre. Donc non, puis la France n'est jamais devenue un pays non aligné. C'est un pays membre d'une alliance et qui veut avoir sa liberté dans l'alliance, mais ce n'est pas un pays qui est n'importe où.
Mais qui est médiateur aujourd'hui, on le voit sur la crise iranienne.
C'est une chose. Ça revient à un mi-allié pas aligné. Le grand problème, c'est que pour les États-Unis, un pays allié doit être aligné. Donc s'il n'est pas aligné, c'est insupportable. Mais donc la France gaullo-mitterrandienne, etc., c'est oui, on est des alliés loyaux dans les coups durs, mais il n'empêche que nous avons notre liberté de pensée et de mouvement. C'est pas du non-alignement, mais c'est de la liberté. C'est ce que le président Macron tente manifestement de refaire, notamment sur la Russie, ou en essayant de maintenir un lien avec l'Iran. Ça, c'est assez cohérent avec la période qui va de De Gaulle à Chirac, on va dire.
Vous êtes arrivé, vous, Hubert Védrine, juste après, dans la droite ligne de ce que vous disiez justement sur cette liberté, on va dire. Vous êtes arrivé, vous, juste après le fameux épisode de Jérusalem, « Do you want me to take my plane ?» Ce moment de cette altercation-là, et ce moment aussi où, au fond, je ne sais pas si c'était, on parlait tout à l'heure de politique sanguine ou intuitive ou pas, je ne sais pas si c'était préparé à ce point-là, mais au fond, est-ce que cet épisode-là a été, selon vous, un marqueur de cette présidence-là dans cette partie du monde, et qui emmène au fond directement à 2003 dont on parlait.
Un peu moins, parce que le président Chirac s'était énervé à juste titre contre la police israélienne qui voulait l'empêcher d'aller où il voulait. Donc il s'est mis en colère, il a menacé de partir, etc. Il a tout à fait raison. Mais quand on regarde ses relations avec Israël de l'époque, il est très arrangeant quand même. Très arrangeant. Le président qui a fait la vraie rupture par rapport à son histoire politique et sa base, c'est François Mitterrand, en mars 82. Quand il a osé parler d'un possible État pour les Palestiniens. Ce que seul avant avait dit le chancelier Bruno Kreisky. Chirac était dans cette continuité, mais en fait, il avait, à travers cette espèce d'empathie extraordinaire qu'il avait avec tout le monde, des relations plutôt bonnes avec les dirigeants israéliens. Donc, faut pas le cataloguer dans un camp, en dehors de cette réaction normale d'autorité, de dignité d'un président français.
Et d'État palestinien, d'ailleurs, a-t-il réellement parlé, au fond, Jacques Chirac, dans sa politique étrangère ?
C'était la position de la France depuis mars 82, et puis tout a tourné autrement, parce que, évidemment, l'évolution sur place, le soutien des États-Unis, fait tout l'engrenage, le fait que les pays arabes n'ont jamais rien fait sérieusement dans ce sens. Bon, c'est une position honorable, très honorable, remarquable de la France, qui est un des seuls pays à maintenir, mais ça se traduit par rien, concrètement. Donc, Jacques Chirac ne l'a pas abandonné, c'est vrai, mais il ne l'a pas créé, et il ne l'a pas atténué. Mais c'est pas là-dessus où il est plus... Non, si vous permettez, je dirais qu'il est beaucoup plus marquant dans quelque chose qui le distingue d'à peu près tout le personnel politique occidental et européen de ces périodes, c'est qu'il avait une véritable empathie pour tous les peuples non occidentaux. Et alors sur l'Europe, il faisait son travail correctement, avec pas plus de conviction que Schröder en face, par exemple. Enfin, il faisait le boulot correctement, il n'y a rien à lui reprocher. Mais par rapport au monde asiatique, par rapport à la Russie, par rapport à l'Afrique, et c'est pas que de l'Afrique. C'est pas une vieille histoire de France-Afrique que j'en sors, c'est de francophonie. Il avait le même intérêt pour les peuples premiers, l'Amérique latine, tout, l'histoire des Mongols, l'histoire de Gengis Khan, les Esquimaux, tout. Il avait une empathie extraordinaire, comme si quelque part, il était mal à l'aise avec le triomphalisme occidentaliste qui s'est développé après la chute de l'URSS. Et d'ailleurs, je rappelle ici qu'il avait refusé de participer au 500e anniversaire de la découverte de l'Amérique latine par Christophe Colomb.
Jean-Marc, vous vouliez ajouter quelque chose et puis on rejoindra, on retournera au Moyen-Orient dans un instant.
Mais justement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Hubert Védrine, empathie pour les populations, avec ce moment quand même de 96, du You Want Me To Go Back To My Plane, qui est quand même un moment emblématique auprès des populations arabes, en tout cas palestiniennes, ça a un écho quand même assez important auprès des populations. Est-ce qu'il n'y a pas justement une sorte de dichotomie, c'est-à-dire d'un côté empathie vis-à-vis des populations, ce que vous décriviez à l'instant, et de l'autre côté, vis-à-vis des dirigeants, finalement, statu quo. Si on prend la politique africaine, c'est statu quo. Je veux dire, on continue de soutenir les tyrans africains habituels pendant toute la période de Jacques Chirac.
Non, on soutient les gens qui sont là. Quoi.
Oui, ben c'est la même chose.
On n'est pas content qu'il y ait des tyrans, on n'est pas au pouvoir exprès. On serait content qu'il y ait des gentils démocrates sympathiques, etc. Bon, enfin, on fait avec, vous voyez.
Mais donc, il y a un contraste, vous voyez ce que je veux dire, entre l'attitude vis-à-vis des, cette empathie vis-à-vis des populations d'un côté et de l'autre, le statu quo sur le plan institutionnel.
Il avait autant d'empathie pour les Israéliens que pour les Palestiniens sur le plan des gens par rapport à ça. Mais comme il ne pensait pas que nous ayons le droit, les moyens, la légitimité pour aller bouleverser le monde entier pour qu'il ressemble à nous, il n'était pas du tout sur cette ligne. Donc il faisait avec. Il essayait à la marge, moi je l'ai vu, agir pour essayer de, encouragé par le gouvernement, par Jospin, etc., mais c'est d'agir pour libérer des gens dans les prisons, atténuer telle ou telle répression, des choses comme ça. Il était plutôt de ce côté-là quand même. Mais il ne croyait pas que nous ayons une mission spéciale qui nous soit donnée par je ne sais qui et qui nous donne des moyens particuliers. Donc il était en effet très pragmatique sur ce point. Mais c'était pas un partisan archi-archaïque des systèmes répressifs, c'est pas ça. Non plus.
Thomas Legrand, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Non, je voulais parler d'une autre période et vous poser une question sur une autre période entre quand Jacques Chirac était le Premier ministre de la cohabitation de François Mitterrand. Et il y a eu, en 1988, lors du débat, un moment de tension très important entre Jacques Chirac et François Mitterrand à propos de l'affaire Gorgie. Et pour rappeler à nos auditeurs, Jacques Chirac... et François Mitterrand n'avait pas la même vision de cette affaire, on pourrait la rappeler, c'est un peu compliqué, mais là je parle
du rôle d'un diplomate à l'ambassade d'Iran à Paris dans les opérations terroristes.
Voilà. Il avait été expulsé. Et alors, il avait été expulsé. Et chacun se renvoyait la responsabilité de cette expulsion et donc d'une sorte de cynisme.
Dans les yeux.
Et donc François Mitterrand disait quelque chose et Jacques Chirac lui a dit...
C'est pas ça le cynisme. C'est pas une émission de philosophie.
Oui, je sais que votre définition du cynisme, c'est autre chose. Qui mentait à l'époque ? Je rappelle que pendant ce débat, Jacques Chirac demande à François Mitterrand, les yeux dans les yeux, ce que vous dites, pouvez-vous me répéter ce que vous dites ? Moi, je pense que c'est faux. Ou alors, répétez-le-moi, les yeux dans les yeux. Il y avait une sorte de défi. Et les yeux dans les yeux, François Mitterrand a dit très froidement, je vous le redis, qui mentait ?
Alors, je ne suis pas un témoin de première main, moins que dans la période 97-2002, parce que je n'ai pas de fonction à l'époque. Moi, à l'Élysée, je n'en retrouve qu'à partir de 88.
Oui. Bon.
Mais donc, je ne sais pas. Mais j'ai lu les mémoires de Jean-Bernard Raymond, qui était ministre choisi par Chirac, mais accepté par Mitterrand, des Affaires étrangères pendant la première cohabitation, le grand diplomate de carrière. Et il dit, c'est Mitterrand qui avait raison.
Oui.
Jean-Bernard Raymond.
Voilà, donc
mais c'est pas un témoignage personnel.
Non, je pensais que vous aviez plus d'informations, mais j'avais cette réponse aussi. Mais c'est intéressant sur la personnalité. Il avait un culot incroyable. Il a beaucoup menti aussi. Ça éclaire le personnage.
Et d'autant qu'à l'époque et pendant très longtemps, on disait effectivement que c'était l'inverse, et que c'était Mitterrand qui montait là comme un arrache.
Mitterrand avait l'image comme ça de la froideur et du cynisme, et en fait, sous le côté bonhomme de Jacques Chirac, c'est lui qui montait.
Est-ce que si ça vous ennuie pas, je voudrais qu'on retourne.
Il n'y a pas de jugement de valeur. C'était un petit point d'histoire amusant. Quoi.
Je voudrais qu'on retourne au Moyen-Orient. Je voudrais qu'on retourne au Moyen-Orient un instant et qu'on rejoigne au téléphone Leïla Chaïd. Bonsoir Leïla Chaïd.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir Leïla Chaïd. À l'époque, vous étiez déléguée générale de l'autorité palestinienne en France, si je ne me trompe pas. Et vous étiez, vous, dans cette fameuse, d'abord pour avoir l'image, la fameuse scène de l'avion. Vous y étiez, si je ne me trompe pas, Leïla Chaïd.
De l'avion ou de la visite à
Jérusalem ? De la visite et du refus de prendre l'avion, c'est ça que je voulais dire. De la part de Chirac.
Du refus de prendre l'avion. Quel avion ?
C'est ça. Le fameux « Do you want me to take my plane », Leïla Chaïd.
Il menaçait de partir.
C'était ça l'idée.
Écoutez, je suis très émue par la mort de Jacques Chirac, parce que votre président était un grand président, en particulier par rapport aux Palestiniens. L'incident que vous avez vu dans les médias, il est la conséquence directe du fait que le président a refusé d'avoir tout accompagnement israélien à Jérusalem-Est pendant son voyage. Et donc, c'est le premier président étranger, européen, qui décide de faire une visite privée à Jérusalem-Est, où il n'y avait ni soldats, ni police, ni accompagnement de ministres israéliens. Et ça a mis les Israéliens hors d'eux. Il y a eu plusieurs journées de disputes avant. Et ce que vous avez vu, ça veut dire le harcèlement, non seulement du président Chirac, mais des journalistes, vos collègues, nous, les accompagnateurs, les présidents du CRIF français. C'était la réponse des autorités israéliennes au défi que leur lançait Jacques Chirac à Jérusalem-Est. Parce que son refus d'avoir une personnalité israélienne politique ou l'armée israélienne était une non-reconnaissance de l'annexion de Jérusalem-Est. Mmh. C'est ça le vrai sujet. C'est pour ça qu'ils l'ont harcelé. Ce n'était pas un incident concernant ni avion ni autre chose. Il leur a dit, parce que les journalistes disaient, ils sont en train de nous rentrer dedans avec des voitures. Vous savez, dans la vieille ville, ils ont des caddies, des voitures à quatre roues, parce qu'ils ne peuvent pas mettre des voitures. Et ils ont été odieux avec toute la délégation, et en particulier avec les journalistes. Et donc, ça m'a beaucoup agacé pendant longtemps qu'on disait que Chirac a fait un esclandre pour qu'on parle de lui dans la presse. Ce n'est vraiment pas ça. Demandez à Stanislas de la Boulay, qui était le consul général de France. Les Israéliens ont tout fait pour obliger Chirac à se faire accompagner par des ministres israéliens. Et contrairement à Bill Clinton, il a refusé.
Qu'est-ce qui s'est passé après? En quoi, selon vous, et y compris dans la politique de Jacques Chirac, mais aussi chez vous, à l'époque dans les territoires palestiniens, Leïla Chaïd, en quoi cet incident-là, cet événement-là, a fait bouger des lignes? Est-ce qu'elle en a réellement bougé?
C'est pas seulement, non, c'est réduire l'histoire à des anecdotes. Ça, c'est un épisode. C'est la première épisode qui est le premier jour, c'est le jour, la demi-journée entre la visite israélienne qui se termine à Jérusalem-Ouest. Vous savez, Chirac a fait chercher sa voiture de Paris blindée pour ne pas accepter une voiture blindée israélienne à Jérusalem-Est. Le lendemain, il est monté, il est le premier chef d'État qui va parler au Conseil législatif palestinien, ce qu'on appelle le Parlement palestinien à Ramallah. C'est le premier qui prend un avion, et je l'accompagnais dans un hélicoptère de Ramallah à Gaza pour rencontrer le président Arafat à Gaza. Donc il a voulu traiter les Palestiniens comme une entité nationale. On n'était pas encore, on n'était pas encore reconnu. Oslo ne devait pas encore donner un État, malheureusement. Mais c'est cohérent. Vous savez, je ne suis pas Hubert Védrine, qui était un brillant ministre, et j'ai vu combien Chirac le respectait et l'écoutait, et ça dit beaucoup d'un président qui garde Hubert Védrine, qui n'est pas de sa mouvance politique comme ministre, et qui l'écoute, contrairement à beaucoup d'autres présidents. Et j'ai vu aussi, en accompagnant, parce que je suis un petit élément qui est dans les rencontres officielles, que la personnalité des dirigeants politiques compte beaucoup. Vous aviez parlé de la différence entre le président Mitterrand et le président Chirac. Ils sont vraiment à l'opposé l'un de l'autre, à mon avis, humblement. Et Chirac est quelqu'un qui est foncièrement chaleureux et qui réagit aux cartes du tour. Et donc, il peut passer ce sentiment qu'il s'intéresse vraiment aux causes compliquées du monde, comme la Palestine, ou le Liban, par exemple, où aujourd'hui, s'il était vivant, l'Iran, comme il a su réagir par rapport à l'Irak. Tout le monde se demande pourquoi on l'a appelé docteur, pourquoi Arafat l'a appelé docteur Chirac. C'est pas parce qu'Arafat ne savait pas qu'il n'était pas docteur, bien sûr. Mais c'est parce qu'un jour, arrivant à Sharm el-Sheikh, un grand sommet chez Moubarak, où tous les chefs d'État étaient inclus, les Américains, il a trouvé Arafat très déprimé, et il lui a dit, mais qu'est-ce qu'il y a, tu sembles abattu? Il lui a dit, les Américains viennent d'annuler le rendez-vous, parce qu'il y a toujours la veille des sommets, des rendez-vous. Le ministre Védrine vous expliquera. Et Chirac lui a dit, assieds-toi, attends-moi, je reviens. Et le président Chirac est parti. Il est revenu 5 minutes après, il lui a dit, le rendez-vous est maintenu à la même heure. Et Arafat a sauté de bonheur, parce que c'est très important pour Arafat qu'il puisse voir le président américain, le président français, le président israélien ou le premier ministre israélien avant les sommets. Qui avait restauré la réunion? Un geste spontané et chaleureux du président français. Mais est-ce que vous parliez de Schröder? Qui a obtenu de Schröder la reconnaissance de l'État de Palestinien un jour à venir? Malheureusement, ça n'a pas encore eu lieu. Toujours Chirac. Chirac a pris le papier. Il y avait des négociations entre institutions et diplomates. Et lui, impatient d'attendre, il a pris le texte ce que les Français avaient écrit. Il a essayé de faire signer un Schröder en passant par-dessus la tête du ministre des Affaires étrangères allemand. Il y a en politique aussi l'apport de ce que moi j'appelle l'intelligence du cœur.
Leïla Chaïda. Le
Chirac, et le président Mitterrand était un brillant président qui a eu beaucoup de courage d'aller dire aux Israéliens, sans la reconnaissance d'un État palestinien, vous n'aurez jamais une vie normale, et il a raison.
Leïla Chaïda, j'ai vu Hubert Védrine réagir à ce que vous disiez, à ce que vous expliquiez, monsieur Védrine.
Non, mais d'abord, je suis enchanté d'entendre Leïla Chaïda que j'aime beaucoup, et que nous avons travaillé ensemble pendant des années. Elle a fait un travail magnifique et je pense que peu de gens parmi les responsables palestiniens ont expliqué mieux qu'elle, en fait, la cause, l'histoire de ce peuple, leurs demandes, etc., etc. Bon. Et après, il y a toutes sortes de nuances qu'on peut introduire dans la personnalité des présidents. Les anecdotes sur Chirac sont très bonnes parce que vous pourriez en trouver des dizaines et des dizaines, y compris du côté israélien, d'ailleurs, en termes de sympathie, d'empathie et compagnie, à peu près partout dans le monde entier, sauf en Europe où ça n'excitait pas énormément le sujet, même s'il faisait ce qu'il fallait. Mais je veux dire, dans la longue durée, le vrai problème par rapport aux justes propositions de la France depuis le discours de mars 82, c'est que les Israéliens n'ont jamais cessé de voter de plus en plus à droite, en fait. Et qu'aujourd'hui, Israël est vote nationaliste ou ultranationaliste, tous les partis religieux, ceci, cela. Bon, et personne au monde est capable de, évidemment, de faire pression sur eux pour 36 raisons, mais même de les convaincre. Donc c'est pas la question de les nuances dans la part de la France sur le sujet, c'est ça la question de fond.
Ce que vous dites résonne aussi avec ce que nous demande Pierre. Bonsoir Pierre.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu Pierre.
Voilà, oui, je suis un peu surpris par le discours de Madame Chaïd, écoutez, qui vraiment est très loin de ce qui se passe. Enfin, j'ai l'impression qu'elle a 20 ans de retard, excusez-moi, mais je le dis franchement, pour moi Jacques Chirac est...
Alors, elle parle d'une scène qui s'est produite en 1996 et après. Oui. Donc, effectivement, on est dans 20,
justement,
presque 30.
Oui, mais justement, la France parle. Alors, c'est vrai que Jacques Chirac a fait son coup d'éclat à Jérusalem. C'est vrai que François Hollande a voulu faire la guerre en Syrie. C'est vrai que Emmanuel Macron, il veut que l'Iran et les États-Unis se parlent. Ça, c'est de la parole. Ça, c'est du verbe. Et la France est écoutée. Maintenant, si on regardait le réel, les actes, le concret, qu'est-ce qu'on voit? Et là, je trouve que M. Védrine, il a raison. On voit un État israélien qui est colonialiste, qui est même impérialiste, et qui, il n'y aura pas d'État palestinien pendant très longtemps. Donc, le coup de gueule de Jacques Chirac et même de François Mitterrand qui parle d'État palestinien, ben, pour l'instant, 20 ans après, il n'y a rien. C'est même pire qu'en 82 ou en 89. On prend, pour la Syrie, on voulait faire la guerre en Syrie, on parle, et c'était très bien. Et Obama a dit non, on n'y est pas allé, ce qui a fait en sorte que tous les mouvements terroristes se sont développés. Pour Macron, c'est pareil, il parle, alors on nous dit à France Inter qu'à la tribune donc de l'ONU, il parle et qu'on l'applaudit, sauf que Trump, excusez-moi l'expression, il fait un bras d'honneur, et il n'y a pas de pourparlers et d'actes concrets entre l'Iran et les États-Unis. Donc pour moi, la France parle, mais elle révèle à travers ses présidents, qui sont sûrement sincères, une impuissance concrète totale.
Je voudrais, merci Pierre pour votre intervention. Évidemment, vous allez répondre, Hubert Védrine, mais comme Leïla Chaïd a été interpellée au début, je voudrais qu'elle ait l'occasion de répondre sur parle. Il y a eu ce coup de gueule.
Je ne comprends pas ce que veut dire Pierre, puisque je vous ai raconté ce que je vis de mes propres yeux, puisque le président Chirac a tenu à ce que je sois présente dans cette délégation à Jérusalem, puisqu'il n'y avait pas le représentant officiel. Et comme il avait déjà invité les présidents du GRIF, M. Hardenberg, M. Kahn...
Il parle des conséquences, en fait, notre auditeur, Leïla Chaïd.
Je voudrais seulement dire une dernière chose.
Allez-y.
Le président Chirac a été le premier président français à reconnaître aussi la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs pendant l'occupation. Et je pense que ça prouve combien il avait une vraie politique, pas seulement de l'émotion, de la chaleur. Il a voulu, il a toujours, comme a dit d'ailleurs Hubert Védrine, un homme qui n'a pas cru que c'est par des guerres qu'on instaurera de la paix, mais par une politique multilatérale. Ce qu'a fait Hubert Védrine. Et c'est ça qui donne un rôle à la France. Ce n'est pas des individus, c'est pas uniquement, c'est les institutions de la République. Et la France, par ce biais-là, a joué un rôle. J'ai, après Paris, fait 10 ans d'ambassade à Bruxelles. Et j'ai vu moi-même le poids de la France, même si elle n'est pas seule, même si on parle tout le temps de l'accent allemand et français. Mais l'histoire de la France l'oblige à jouer un rôle lorsqu'elle a des chefs d'État à la hauteur de nos crises internationales tellement complexes.
Merci beaucoup de votre intervention, Leïla Chaïd. Yael Gauze, pour qui voulait rajouter quelque chose, et puis bien sûr, Monsieur Védrine, vous répondrez.
Question à Hubert Védrine aussi, parce que dans le moment où vous étiez en fonction, c'était un moment particulier, la cohabitation. Il fallait réussir à parler d'une même voix alors qu'il y avait deux camps politiques différents, un président, un premier ministre, en cohabitation. Donc c'était votre mission à ce moment-là. Et ça se passait pas forcément toujours très bien au Proche-Orient pour Lionel Jospin. Birzeit, le caillassage en février 2000 lorsqu'il fait une visite au Proche-Orient et qu'il condamne les attaques terroristes du Hezbollah. Ça met le feu là-bas et Jacques Chirac, derrière, recadre son premier ministre en disant il faut, attention, respecter les équilibres, attention à ce que l'on dit. Vous étiez aux premières loges, Hubert Védrine. Est-ce qu'à ce moment-là, on touchait pas du doigt les limites d'une cohabitation Chirac-Jospin?
Non, c'est peanuts par rapport aux 5 ans. Mais j'ai plusieurs choses à dire, si vous permettez. D'abord, là, c'est un événement monté en épingle, parce que quand on regarde le cœur du sujet, Israël et la Palestine, l'État palestinien, les discours de Chirac et de Jospin sont les mêmes. Par contre, sur le second point, comment qualifier le Hezbollah? C'est vrai que Lionel Jospin va adopter une position qui n'est pas à l'époque celle de Chirac, mais qui sera adoptée par Chirac et Villepin quelques années après. Ils ont dit la même chose.
Mais à ce moment-là, on touche du doigt la diplomatie à deux voix.
On touche de là la complexité du travail que j'ai fait, ainsi qu'Alain Richard, ministre de la Défense, puisqu'on était les deux ministres régaliens, nommés, choisis par Jospin, acceptés par Chirac. Il y avait un travail en amont qui fait que sur à peu près tous les sujets, sur 5 années, vous trouverez 3-4 choses comme ça, vous voyez, mais pas plus. Donc ça a rendu la France presque plus cohérente et plus impressionnante, parce que les gens se disaient c'est la France qui parle, en fait. Ils se sont mis d'accord. Je voudrais dire un mot sur la question de la puissance.
Oui,
c'est très facile de démontrer les limites de la puissance. Mais c'est vrai aussi de Napoléon, puisqu'il y a Austerlitz à la fin. Bon, c'est vrai de tout le monde. Donc, ça prouve rien de démontrer que tel ou tel président français, même s'il a dit des choses justes ou très bien ou inspirées, n'a pas entièrement eu satisfaction. C'est vrai des Américains aussi. Bon, c'est vrai de tout le monde. Ça prouve rien en particulier sur la France qu'il faille interpréter de façon masochiste par rapport à ça, vous voyez. Quant à l'affaire du Proche-Orient, il faut aussi rappeler que le camp de la paix israélien, qui était rempli de gens magnifiques, courageux, extraordinaires, d'intellectuels, de romanciers, d'ONG, etc., qui ont combattu sans arrêt l'évolution d'Israël depuis Begin, Shamir et compagnie. Bon, ils sont mal organisés, ils étaient dispersés, ils n'ont rien obtenu. D'autre part, les pays arabes, la question se pose quand même avant de savoir ce que la France a fait ou pas. C'est pas pareil. Les pays arabes n'ont rien fait dans toute cette période. Ils n'ont jamais utilisé leur puissance pour obtenir un règlement raisonnable de la question. Donc, faut pas. Je ne dis pas que ces débats sont d'intérêt, mais il faut relativiser un peu les discussions trop fines qui pensent que la France a fait ou pas.
Jean-Marc, je vous ai vu lever la main.
Oui, parce qu'on aurait presque l'impression, au regard de ce qui s'est passé sur l'Irak, du Proche-Orient, que la France, la diplomatie de Jacques Chirac, c'était une colombe. Mais c'est pas que ça. Ce sont aussi des interventions militaires. En Afrique, l'opération Licorne, Côte d'Ivoire, la Centrafrique, le Tchad, le Kosovo.
Mais alors le Kosovo, j'assume, puisque moi j'étais ministre et que c'est essentiellement les ministres qui ont assumé et qui ont fait le travail pendant 18 mois pour essayer de trouver une solution politique. C'est en désespoir de cause qu'on a dû faire appel à l'OTAN, qui était le seul système disponible, pour faire plier Milosevic, avec l'accord de tous les pays européens, membres de l'Union ou pas, membres de l'OTAN ou pas. Bon, ça c'est un long processus.
Mais donc Chirac pouvait être interventionniste aussi, c'est ça que je veux dire.
Non, mais il n'y a pas de pays qui soit une colombe, ce n'est pas des ONG les pays. Il n'y a aucun pays qui soit spécialisé dans le pacifisme. Ça n'existe pas. Même la Suisse. Il y a des gens très armés, capables de se défendre, etc. Je ne dis pas qu'il faut faire l'inverse non plus. Donc, il y a une politique qu'il faut juger dans son ensemble. C'est vrai pour Chirac, mais je le dirais sur les autres présidents. Donc, ce n'est pas une contradiction, ça. Si vous faites le bilan complet, il faut analyser chaque cas. Et on peut porter un jugement. Ce n'est pas du tout choquant d'évaluer. Mais le Kosovo ne contredit pas ce que nous sommes en train de dire sur le Proche-Orient. Ou en plus, la chose... Enfin, l'élément triste qui est en fond, c'est que nous n'avons pas réussi à influencer. On n'a pas réussi à convaincre les Israéliens qu'il fallait accepter ce petit État palestinien qui ne menacerait personne. On n'a pas réussi. Et même les présidents américains qui, en général, à la fin, dans le deuxième mandat, quand ils en ont marre des contraintes qui les empêchent de faire ça, ils essayent. Ça ne marche pas non plus. Bon, tout ça est bien triste. C'est pas une raison pour qu'il y ait des disputes franco-françaises sur les sujets. Hein.
Vous l'avez un petit peu évoqué. On a entendu passer le nom de Schröder dans nos discussions tout à l'heure. Hubert Védrine, moi, je me souviens du début de carrière de Jacques Chirac. Il y avait un côté, il y a eu l'appel de Cochin. Il y a quelque chose d'assez peu européen. On y met des guillemets. Est-ce que vous avez le sentiment que c'était devenu un Européen convaincu? Est-ce qu'il l'était parce qu'il savait que c'était la seule solution? Est-ce qu'il l'était donc de cœur ou de raison européen?
Ça dépend ce que vous appelez un Européen convaincu. Si on prend les fédéralistes, il n'y en a pas dans le corps électoral d'aucun pays européen. Il y en a dans les think tanks, dans les journaux économiques, mais ils n'existent pas en réalité. Il y a des pro-européens, centre-gauche, centre-droit, modérés, mm-hmm. qui sont encore présents, minoritaires, parfois très minoritaires. Bon, Chirac ne venait pas a priori de ce courant de pensée, peut-on dire. Puis il y avait un élément de séguinisme dans le chiracisme. Et il a assumé en tant que président ses devoirs de président. Donc tout le système européen, le franco-allemand, etc. Schröder était pareil en fait. Mm-hmm. Schröder, d'ailleurs les Allemands jusqu'à maintenant, et ça a continué, ça ne changera plus. Ils n'ont pas de vision spéciale.
Donc on le fait sans passion, on le fait y compris sans émotion. Il y a eu une part d'émotion dans le couple Kohl-Mitterrand.
Oui, ça fait 50 ans.
Bien sûr, passé, mais...
On est après, d'ailleurs Schröder lui-même le disait ça.
Il y a eu un chien de faïence entre Merkel et Sarkozy. Oui, enfin là, c'était...
Non, d'accord, mais ça c'est des petites choses. Mais fondamentalement, on est quand même très 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 longtemps après. Ça a commencé avec De Gaulle, Adenauer dans la cathédrale de Reims. Ça fait très longtemps quand même. Donc les dirigeants, ils gèrent. Le fait que les grands pays européens soient dans un système d'intérêts gérés en commun à travers le système communautaire qu'on a créé, le marché commun, puis le grand marché qui a dynamisé l'Europe. Bon, tout ça, c'est une réussite collective par rapport à ça, y compris l'euro, qui nous protège contre l'instabilité. Je connais pas de dirigeant européen, c'est pas spécial à Chirac, c'est ça que
mais
je veux
coup,
dire.
Mais du coup, c'était quel couple Chirac-Schröder en fait? C'était quoi le couple?
D'abord, le mot couple franco-allemand n'est plus valable à partir de la réunification. Et les Allemands l'emploient jamais. Mm-hmm. Jamais. On parle de l'entente, de la collaboration, du moteur franco-allemand quand ça marche, c'est ça. C'était deux réalistes qui défendaient les intérêts de la France et de l'Allemagne dans le cadre des intérêts européens et ça marchait, ça marchait pas. Ça n'a pas très bien marché jusqu'au Conseil européen de Nice. On s'est pas mal frité avec eux, ça a mieux marché après, parce que Jacques Chirac a repris la bonne vieille méthode Mitterrand-Kohl, qui était de se rencontrer régulièrement dans de très bons restaurants, avec juste les ministres clés, un ou deux conseillers, pour préparer les choses. Mais il le faisait comme le font les Allemands, d'ailleurs, par rapport à... Donc c'est pas Chirac qui serait singulier dans un ensemble composé d'européistes militants, c'est pas du tout le cas. C'est parce qu'il certains peuvent le regretter, mais c'est pas le cas, ça ne le marque pas sur ce plan. Donc il a assumé au moment avant, avant d'être président, il avait assumé Maastricht, par exemple.
Oui.
Bon, sans doute convaincu par un Balladur.
Et il n'est pas tout seul, hein, mais il perd le référendum de 2005, il n'arrive pas à convaincre au moment du référendum de 2005.
Oui, mais c'était une idiotie, ce référendum. Au moment de Maastricht.
Certes, mais à la fin, il y a eu un
très rationnel. Il valait mieux dans une monnaie unique que dans la zone marque, dont on était déjà dépendant avant. Bon, c'était quand même mieux, finalement. Bon, toutes les autorités morales, médiatiques, vous à fond, tout le monde, était pour le oui, sauf le Front National. Le oui est passé avec un point d'écart. Donc le fameux décrochage des peuples, qui étaient plus convaincus par la mondialisation, l'Europe et compagnie, a commencé là. Faire un référendum en 2005 sur un prétendu traité constitutionnel qui ne s'imposait pas en plus... C'était vraiment totalement risqué. C'est pas de la faute de Chirac.
Mais on vit sur cet échec-là. Aujourd'hui, tous les partis, les grands partis ont été fracturés à partir de là,
oui,
sur
vrai,
cette question-là. Donc on vit là-dessus aujourd'hui, sur cet échec.
Oui, mais
le PS s'était profondément divisé. Les Républicains aujourd'hui sont divisés entre pro-européens et souverainistes.
Ils sont divisés par plein d'autres choses. En plus, par exemple, la non-prise en compte de la demande tout à fait normale de la maîtrise des
prix. Donc erreur à l'époque, erreur pour vous, politique et tactique à l'époque?
Pour moi, la première erreur... qui est une erreur de bonne foi, parce que je connais la sincérité militante des européistes qui ont une idée très forte de l'Europe, c'est l'idée de faire un traité constitutionnel. Pourquoi ? Aucun peuple ne demande ça, les gens ne comprennent pas, on est déjà au stade où ils trouvent que la pluie de directives commence à complètement bouleverser leur vie réelle, il fallait prendre les choses autrement, plus pragmatiquement, sans grandiloquence, etc. Donc l'erreur est dans cette décision. Après, le référendum est une erreur tactique sur l'erreur stratégique, vous voyez, pas un point à ça.
Ambroise, vous vouliez ajouter quelque chose, Jean-Marc? Et on retournera au standard. Allez-y.
Je pose une question de politique fiction pour s'amuser. parce qu'on connaissait ces mouvements d'humeur de Jacques Chirac, ces coups de sang qui parfois avaient de vrais impacts politiques ou diplomatiques. Et ses relations parfois assez tendues avec nos amis britanniques, Margaret Thatcher, Tony Blair, etc. Quelle attitude il aurait eu face au Brexit?
Je sais pas, il aurait dit c'est des idiots, tant pis pour eux.
il l'aurait dit comme ça.
Peut-être, oui. peut-être plus, de toute façon plus
diplomatique.
Parce que Boris Johnson l'adore.
Et encore que, oui,
soir,
absolument. Il y a eu un hommage venant de Boris Johnson. Il y a un sujet africain qu'on a évoqué à l'instant sur lequel Ambroise voudrait revenir. Bonsoir, Ambroise.
Bonsoir, Madame Saint-Esse.
Soyez bienvenue.
Merci beaucoup. Bonsoir à tous les invités. J'aimerais intervenir sur le bilan de Monsieur Chirac, président que je respecte beaucoup, hein, et devant lequel je m'incline, mais bon, son bilan par rapport à la francophonie et surtout par rapport au développement démocratique des pays africains n'est pas très reluisant, parce qu'il a été le soutien de beaucoup de dictateurs, et je me souviens, moi, d'une anecdote assez croustillante où, au sortir d'un rendez-vous avec le président togolais Eyadema, pendant que l'opposition manifestait pour vraiment dégager ce président, ben Chirac a déclaré que c'était l'ami de la France et que c'était quelqu'un qui dirigeait bien son pays, alors que c'était le contraire. Et cela avait contribué aussi à ruiner tous les efforts de l'opposition de l'époque. Donc pour moi, il reste un soutien des grands dictateurs, les Bongo, les Biya, etc., etc., et que sur ce plan, son bilan africain n'est pas reluisant.
Merci pour votre intervention, Ambroise Hubert Védrine. Vous avez partiellement répondu déjà tout à l'heure. Chirac, l'ami des dictateurs africains.
Non, j'ai pas dit ça.
Non. C'est le sens de la question d'Ambroise.
De l'empathie par rapport à la culture, aux gens, au peuple, etc. Bon, deux choses. Jacques Chirac a géré les questions africaines à l'ancienne, on va dire. À l'ancienne, mais pas. Il y a eu plusieurs périodes, De Gaulle, Pompidou, ça a évolué sans arrêt. La France-Afrique a été dépassée 350 fois, mais il y a toujours des relations. Je suis pas sûr qu'il faille avoir honte du fait qu'il soit resté des relations plus fortes entre la France et les anciennes colonies, qu'entre la Belgique et les anciennes colonies, ou la Grande-Bretagne et les anciennes colonies. Bon, mais ça, c'est peut-être trop tôt par rapport à la sensibilité des gens pour revenir là-dessus. Donc, il faisait ça à l'ancienne. C'est vrai qu'il n'a pas fait l'équivalent du fameux discours de Mitterrand dans le sommet de la Baule, dans lequel il a encouragé le développement de la démocratisation en Afrique, ce qui lui a été beaucoup reproché, mais pas des reproches en France Inter, des reproches de gens disant il a mis le feu aux poudres parce que c'est grouille de parti ethnique. Vous voyez, une autre critique, d'une autre sorte. Bon, ça c'est vrai, mais cela dit, je ne pense pas qu'on puisse considérer maintenant, compte tenu du développement de l'Afrique, de l'information des gens, du nombre de gens diplômés qui circulent, etc., que ce qui se passe en Afrique, l'implantation de tel ou tel dirigeant, considéré comme despote ou dit, soit la décision de Paris. C'est complètement fantasmatique.
À l'époque de Jacques Chirac, c'était peut-être un peu plus le cas.
Ça me paraît très fantasmatique. Mmh. C'est vrai que la France, comme tous les pays, disent on préfère ça, le changement. Si on change, on ne sait pas sur quoi on va tomber, etc.
Le statu quo.
Donc, une sorte d'attachement au statu quo qui peut se comprendre.
La peur du chaos.
Bon, les militants sont contre ça. Mais l'idée que Eyadema, par exemple, soit resté parce que la France... Mais je ne vois pas comment, en fait. Donc, il faut entrer dans des situations locales, africaines, les rapports de force. Pourquoi des tas de partis d'opposition n'y arrivent pas? Quand ils y arrivent, ils font pareil qu'avant. Bon, c'est pas que la France. Il y a comme une telle culture de la culpabilité expiatoire avec les lamentations permanentes dans ce pays que ça brouille un peu le jugement.
Jean-Marc, on aura le temps de retourner au standard.
Il avait quand même dit, Jacques Chirac, je crois que c'était au micro de nos confrères de RFI, je cite à peu près de mémoire, hein, le pluralisme est un luxe que l'Afrique ne peut pas encore se permettre, ou quelque chose de cet acabit.
Ce plein de dirigeants africains, oui, c'est vrai. C'est vrai.
Rien de dire ça quand même, symboliquement.
Plein de dirigeants au pouvoir, oui.
Non, mais notamment en Afrique, à cause de ce que j'ai dit. Les critiques inattendues, pour notre part, qui avions été très très fiers de l'épouillon de Mitterrand à la Baule. L'idée, du coup, vous avez fait flamber les partis ethniques. On ne s'attendait pas, nous, à cette critique par rapport à ça. Donc il y a plein de dirigeants africains, y compris dans les mieux, dans les plus modernes, qui disent, oui, il faut quand même qu'il y ait des phases de transition dans l'organisation de la démocratie. Il faut un seuil, par exemple, pour les partis. Si on ne met pas X% des gens, bon, vous voyez. C'est plus compliqué qu'il n'y paraît.
Il nous reste un peu moins de...
Excusez-moi, j'ai peur de choquer un peu.
La Baule était un discours naïf ?
Non, c'est un discours naïf. Non, Mitterrand avait dit, on va, comme l'URSS s'effondrer. Mitterrand s'est dit, les pays africains qu'on voudrait voir se démocratiser, un peu quand même, qu'ils arrêtent d'être, qu'ils respectent un peu mieux les droits de l'homme, bon, ils ne vont plus nous faire le chantage à l'URSS. Quand on fait des pressions discrètes, ils vont dire « si vous nous embêtez, on fait une base soviétique, tout ça ». Bon, ils ne peuvent plus faire ça. Donc on va les encourager. Mais Mitterrand avait dit à l'époque « on va laisser tomber personne ». Mais naturellement, on va aider, on va soutenir, on va encourager plus ceux qui vont vers la démocratie. Voilà.
On va prendre la question de Gilles, on va y aller très vite. Excusez-moi Gilles, mais je vous en prie, allez-y et on vous répondra. Allez-y. Bonsoir. Gilles.
Allô ?
Allez-y, on vous écoute.
Oui, bonsoir.
Allez-y Gilles.
Oui, alors, ma question elle est simple. Pourquoi Jacques Chirac a repris les essais nucléaires quand il a été élu président ? C'est ça la question.
Eh ben, merci pour la brièveté de votre question, puisqu'il nous reste une trentaine de secondes. Reprise des essais nucléaires, Hubert Védrine, pour les abandonner d'ailleurs quasiment
1995.
Immédiatement après. 95, puis 96, abandonnés. Est-ce que c'était une erreur selon vous ?
Alors, en 95, moi je ne suis pas dans le pouvoir. Oui. Hein. Donc je suis un commentateur extérieur.
Vous n'êtes pas loin.
Hein, ça. Ouais. Oui, on me voit comme ça en permanence.
Voilà, on vous voit un petit peu, ouais.
Un an après, vous arrivez. Enfin, deux ans.
Donc c'est avant. Bon, je sais simplement que les chefs militaires de l'époque ont dit à Chirac, si on veut garder la dissuasion en état de dissuader, donc suivant les évolutions américaines, soviétiques et compagnie. Bon, il faut donc, on ne peut pas encore tout faire par simulation. Ce n'est pas au point. Donc on a besoin d'un certain nombre d'essais pour bâtir les programmes, les algorithmes en réalité, qui remplaceront les essais par la simulation. Il faut en faire 6 ou 7, je ne sais pas combien. Et donc, ils ont demandé plus. Chirac a dit 6, il s'est arrêté un moment. Il a décidé pour ça. Il veut maintenir la dissuasion à la française, il n'y a pas d'autre solution, je le fais. Voilà.
Et ce sera le mot de la fin, parce que vous avez entendu 19h sonner. Merci.
Le monde de l'époque, il n'a pas eu raison, bien sûr.
Merci en tout cas beaucoup. Merci Hubert Védrine d'avoir participé à ce téléphone sonne. Merci à tous autour de la table. Vous allez rester d'ailleurs. On va aussi élargir à des questions au-delà de la politique internationale. On reste ensemble. Donc, jusqu'à 20h et même au-delà sur France Inter, il est 19h.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Et nous sommes toujours en édition spéciale sur France Inter, mais c'est vous qui avez la parole, c'est vous qui nous racontez votre Jacques Chirac, vos années Chirac, ce que vous retenez de sa politique, de ces années-là, vos années donc à vous, avec nos invités, quelques surprises aussi. Allons directement au fait et bienvenue à ceux qui viennent d'arriver.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Que vous êtes très nombreux à nous appeler. Commençons avec Ilias. Bonsoir Ilias, bienvenue. Ilias.
Bonsoir Madame Sintès.
Allez-y, on vous écoute Ilias.
Oui, alors en fait, moi je voulais mettre en avant un antagonisme qu'il y avait, parce que par exemple, depuis tout à l'heure midi, on entend beaucoup de personnalités, de responsables, même de gens de gauche, dire leur émotion, dire que Chirac est un bon président, mais au final, lors des deux mandats de Jacques Chirac a été très impopulaire, d'une part, et par exemple, il a perdu toutes les élections de tendance au mandat. Par exemple, il a perdu le législatif de 97, les européennes de 99 ont été un fiasco total, Nicolas Sarkozy a dû démissionner, par exemple. Présidentielle de 2002, il ne fait même pas 20%, les régionales de 2004, la gauche et la France est repeinte en rose, et le référendum de 2005, n'en parlons pas, c'est l'initiative de Jacques Chirac et les Français disent non à 55%. Alors pourquoi alors que Jacques Chirac était si impopulaire, a tant raté d'élections, pourquoi les Français sont si attachés à lui et regrettent sa présidence?
Et en voilà une belle question, Ilias. Merci beaucoup pour discuter ensemble jusqu'à 20h. C'est Catherine Clément qui nous a rejoint autour de la table. Bonsoir.
Bonsoir.
Philosophe, romancière, vous êtes chargée de l'université populaire du Quai Branly Jacques Chirac au musée Quai Branly Jacques Chirac, dont nous savons désormais qu'il s'appellera bientôt le musée Jacques Chirac.
Oui, c'est prévu comme ça.
C'est prévu comme ça.
Il faut certainement un décret, mais enfin c'est...
Et votre dernier livre, j'allais dire, sur le sujet qui nous intéresse, Jacques Chirac, vie publique, archives privées, c'est publié chez Hugo Image. Moi, je la trouve bonne, la question d'Elias. Comment se fait-il que ce président, qui a été beaucoup, en termes de popularité, beaucoup secoué lorsqu'il était aux affaires, est devenu aussi populaire?
Il a fait 2 mandats. C'est le dernier président qui a vécu enfant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un président qui a fait la guerre d'Algérie, donc il traîne après lui énormément d'histoires, même si, sur le moment, il n'est pas populaire. Après la mort, c'est ce qui est arrivé à Mitterrand aussi, il a été très populaire tout de suite après sa mort. Et ça a été un déferlement, ça va être un déferlement de même. Mais je crois que la durée, il fait énormément.
Et c'est pas seulement après sa mort, c'est dès 2007, dès lors qu'il quitte la présidence, au fond, que on a l'impression que l'image avait basculé, non? C'est pas à ce moment-là que ça s'est produit?
C'est-à-dire qu'en 2006, dans l'exercice de son pouvoir, il atteint les tréfonds d'impopularité dans les sondages. Il est à 26%, puisque le record, c'est François Hollande qui le bat d'impopularité à 25% quelques années plus tard. Donc en 2006, il est extrêmement bas. Et c'est vrai que le temps qui passe, la sagesse que l'on prend lorsque l'on quitte le pouvoir, évidemment, ça crée un peu d'oubli, et je crois aussi que plus fondamentalement, c'est un rapport psychologique et affectif des Français à une période que eux-mêmes ont vécue, et ils se remémorent une nostalgie qui est la leur, en fait. Les années Chirac, c'est pas forcément que Jacques Chirac, c'est juste qu'il y a cette figure qui accompagnait notre quotidien, qui était là, au Bépé de Chaux, dans les Guignols, ça faisait partie de notre folklore français.
Il était dans la pop culture.
Il était là, il incarnait la France, et nous on vivait, on grandissait aussi en même temps que lui présidait. Et
c'était l'homme à la pomme, comme dans Offenbach.
Et d'ailleurs, on y reviendra d'ailleurs à cette image de la pomme. Il s'est assoupli aussi avec le temps. Est-ce qu'on dit qu'il s'est assoupli avec le temps, Thomas Legrand, Jacques Chirac?
Je ne sais pas s'il s'est assoupli avec le temps, mais il y a une grande différence entre le Chirac conquérant du pouvoir et le Chirac au pouvoir. Le Chirac conquérant du pouvoir faisait d'ailleurs assez peur, parce qu'il était comme ça un vorace de la politique, un multicumulard, et il était très agressif. Il y a eu beaucoup de trahisons d'ailleurs dans son parcours. Il a été trahi, mais il a aussi trahi. Et puis, une fois qu'il est arrivé au pouvoir, il s'est un peu calmé. D'ailleurs, il n'allait pas au bout de ses réformes. Il ne voulait pas brusquer le pays. Et donc, il n'a pas beaucoup réformé. Il a été assez impopulaire. Mais finalement, à la fin, il a quand même gardé la maison. Et c'est vrai ce que vous disiez, c'est-à-dire que c'est une tranche de nos vies. D'ailleurs, l'intitulé de votre émission, dites-nous, parlez-nous de votre Jacques Chirac, c'est-à-dire parlez-nous de vous, quoi, parlez-nous de nous. Et Jacques Chirac a aussi un caractère assez français, enfin en tout cas, les traits caractéristiques qu'on donne aux Français, il les a aussi impulsifs, un peu comme ça, râleurs, mais et bon vivant. Donc on arrive à se retrouver dedans. Et surtout quand il est plus au pouvoir, c'est vrai, mais on aime bien nos présidents, quand ils exercent, on a envie de leur couper la tête,
c'est
et
vrai,
puis quand ils sont plus
français.
Là, on les regrette.
Et Catherine Clément, j'ai vu que vous aviez sagement levé la main, juste après j'ai une surprise, allez-y.
Oui, à propos de brusquer la France, il avait été en 68 le négociateur des accords de Grenelle, donc il savait bien ce que c'était la France syndicale, et la France qui n'était pas syndicale.
Il paraît qu'il avait un flingue même quand il allait négocier.
Pardon ?
Il paraît qu'il avait même un pistolet quand il allait négocier. C'est ce que j'ai lu dans Ici et là. Mais bon, allez-y.
Il avait dû garder une arme de l'Algérie.
Il savait, parce qu'il avait négocié effectivement avec la CGT en 68, il savait aussi ce que ça pouvait faire quand la France pouvait se déchirer. Et donc il avait peur, et c'était au début de cette période où on commençait à parler du morcellement français, de problèmes de laïcité, et donc il a eu ce souci de rassembler, de rassurer, au prix de ne pas réformer.
On vous a interrompu, pardon, allez-y Catherine Clément, je vous en prie.
Au prix de ne pas réformer, ça c'est pas mon sujet, au prix de ne pas réformer.
Il n'a pas réformé, il a fait beaucoup de choses, mais il n'a
pas
réformé.
Non, mais en tout cas il n'était pas l'homme public qu'on croit.
Parce que
le type qui traduit Pouchkine quand il a 18 ans, et Eugène Onéguine en plus, qui est la chose la plus difficile à traduire, et qui fait du sanskrit en même temps, et qui devient grouillot au musée Guimet, bénévolement, ça n'est pas le français type quand même.
Non,
ça,
c'est vrai.
Mais pas du tout. C'est quelqu'un
d'autre.
Moi, je
parlais de la réforme. Il peut être, c'est un grand intellectuel caché peut-être, mais il n'a pas réformé.
On y viendra à ça, mais avant, j'ai une surprise pour vous, parce que au fond, ce qui rassemble aussi et ce qui fait qu'on va chercher nos souvenirs et nos souvenirs lointains, c'est certains épisodes qui ont marqué. Bonsoir Lilian Thuram.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu au téléphone sonne. Merci beaucoup de prendre un petit peu de temps pour nous. Et c'est vrai qu'on a cette image. On a l'image d'un président Chirac qui se trompe sur chacun de vos noms, en tribune, dans les vestiaires, partout. Mais c'est aussi ce moment joyeux que vous représentez avec lui au fond.
Bah effectivement, c'est vrai que je le revois encore dans nos vestiaires après la finale de la Coupe du Monde. Et on avait vraiment l'impression que c'était un supporter qui avait eu la chance de participer à ces événements avec nous, et il était sincèrement très 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 heureux. Et en fait, ce qui était très fort et très marquant dans sa personnalité, c'est qu'en fait il avait toujours une petite phrase pour tout le monde. Et moi par exemple, il m'avait parlé de la Guadeloupe, j'étais très surpris qu'il sache que je vienne d'un petit village qui s'appelle Anse-Bertrand. Il m'avait parlé d'une femme, d'Anse-Bertrand, il me disait « Ah oui, Prudence, Anse-Bertrand ». Et effectivement, Prudence, c'est une dame qui faisait à manger, qui avait fait à manger à l'Élysée. Et donc, je me disais « Non, mais c'est incroyable ». Et donc vraiment, et puis
Et d'ailleurs, ce qui était incroyable, c'est qu'il n'était pas aussi bienveillant qu'avec les joueurs de foot. C'est-à-dire qu'il allait voir le magasinier, le docteur, les kinés. Et donc, je pense que c'est pour cela aussi que les gens l'aiment autant. Voilà.
Et est-ce que vous avez eu conscience à un moment que, au fond, par vous, il avait changé d'image, gagné en popularité à ce moment-là, qu'il était entré dans la pop culture, au fond, par vous et par cette victoire de 98?
Ben écoutez, oui, bien évidemment, parce que de toute façon, je pense que le monde politique rapidement s'approprie les victoires des équipes de France. Et là, il y avait l'équipe de France de foot qui avait gagné la Coupe du Monde. Tout le monde était heureux. Effectivement, il devenait le président qui avait permis à la France de gagner. Donc ça fait partie du jeu, ça.
Il y avait une concurrence Jospin-Chirac pour savoir qui des deux dans la cohabitation profiterait le mieux de l'embellie sondagière, parce que les deux ont gagné, ont profité à ce moment-là. C'est sans doute le moment le plus haut, d'ailleurs, dans leur carrière politique en termes de popularité.
Et c'est un moment que Jacques Chirac a particulièrement aimé, puisque il était pour, encore une fois, le rassemblement de la France, et cette image de cette équipe de
Black Blanc Beur,
et puis aussi politiquement, c'est vrai, la gauche et la droite réunies, finalement, il y a eu un petit moment de grâce, pour reprendre ce mot, politique et sportif, qui a été un moment fort pour la France, et je pense que Jacques Chirac en était très heureux.
Lilian Thuram, vous l'avez revu après? Est-ce qu'il y a eu cette forme de contact, puisque vous êtes resté un peu sur le devant de la scène, y compris après, ou pas du tout? C'est vraiment un instant de 98.
Mais Lilian Thuram a beaucoup travaillé au musée du Quai Branly.
Et aussi, exactement. Absolument. Voilà. J'y venais, quel talent cette Catherine Clément. Allez-y.
Non, mais c'est vrai, c'est vive le Quai Branly. C'est vrai. Dites-moi, mais en fait, j'ai eu la chance de le recroiser. Et en fait, j'ai toujours été marqué par, cette mémoire qu'il avait et aussi cette sympathie qu'il dégageait. Mais vraiment, moi, ça ne m'étonne pas qu'en fait, que les gens l'ont aimé beaucoup après son départ, parce que je pense qu'effectivement, dans l'inconscient collectif, il y a ce sourire, cette façon d'être avec les autres. Voilà.
Merci beaucoup, merci Lilian Thuram de ce petit passage chez nous. C'est vrai qu'on a une relation très compliquée avec nos présidents. Au fond, on les aime très monarques, mais on aime aussi leur taper dans le dos. Enfin, on aime ces deux choses à la fois. Et au fond, il a un peu incarné ces deux facettes-là, Jacques Chirac.
C'était une époque avant Internet, avant le tout info, où on pouvait incarner un peu, on pouvait être un peu jupitérien, comme a essayé de l'être Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'on pouvait disparaître un petit peu, être dans le silence, avoir une parole un peu rare donc forte, et puis dans certains moments être très amical. Et lui, il savait allier ces deux choses-là. Il était à la fois chaleureux avec les gens, mais il restait président. Il avait cette dignité, il avait aussi cette carrure et cette prestance qui fait que
il était grand.
Il était grand. Mais ce qui fait que c'est un des... Et l'époque, encore une fois, n'écrasait pas les présidents sous le poids de la communication obligée, sous le poids de la parole obligée en permanence. Et donc, je pense que c'est le dernier président de la Ve République tel que l'envisageait un peu le général de Gaulle.
Le président qui gouverne et aussi celui qui prend le pouvoir, c'est le sens de la question de Béatrice. Bonsoir, Béatrice.
Oui, bonsoir.
Allez-y.
Alors, je vais me rapprocher un peu de ce qu'a dit... Thomas Legrand, je suis désolée, parce que donc moi, l'image que je garde de Jacques Chirac, c'est quelqu'un qui n'a pas su mettre à profit son score incroyable qui l'a amené à son deuxième mandat. On pouvait penser qu'il avait les coudées franches, qu'il pouvait lui permettre d'entreprendre des réformes très ambitieuses. Or, ça n'a pas du tout été le cas, et pour moi, le bilan de ce mandat est désespérément nul. Je trouve ça très regrettable, vu les conditions dans lesquelles il y a accédé. Pour moi aussi, je retiens Jacques Chirac, quelqu'un qui a été beaucoup plus performant dans la conquête du pouvoir que dans son exercice.
Et ça, c'est intéressant toujours chez ce genre de personnage. Merci beaucoup, Béatrice. Catherine Clément, là-dessus, moi, on se souvient tous de cette phrase, hein, en 2002, nous célébrons la République. Et puis finalement, il n'y a pas de front républicain.
Mais il le regrette dans ses mémoires. Il le regrette avec une grande amertume. Il dit qu'il aurait dû le faire. Et c'est certain qu'il aurait dû le faire. Je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas fait.
Parce que c'était trop tentant de ne pas le faire.
Il n'y avait pas encore, le système partisan n'avait pas encore implosé comme Emmanuel Macron, plusieurs années plus tard, réussira à le faire imploser. Il n'y avait pas encore cette culture de gouverner ensemble. Mais effectivement, a posteriori, même Jean-Pierre Raffarin dit ça. On a raté en 2002, à 82%, une élection comme celle-là. Il fallait donner des gages, des signes, il fallait faire l'ouverture. Mais ça que Nicolas Sarkozy fera beaucoup plus tard en 2007, mais il ne l'a fait pas, Jacques Chirac.
Ça l'a tétanisé, en fait. Et il était tétanisé par la division française. Et finalement, une fois qu'il a été réélu dans ces conditions, il s'est dit, il faut pas... D'abord, il y avait eu 97, entre-temps, où il a été quand même traumatisé par son erreur de jugement. Et le fait... C'est en tout cas, oui, puisque c'est lui qui décide. Alors, c'est Dominique de Villepin qui l'a conseillé, mais enfin, c'est quand même le responsable. Et en dernier ressort, c'est lui qui décide. Donc c'est la sienne. Et je pense que 68, 97, 2002, il a été tétanisé par la division française. C'était encore une fois le début de cette époque qui aboutit aujourd'hui à ce qu'on appelle le morcellement, la France archipel. Il avait ce sentiment-là et il n'a pas bougé.
Catherine Clément, là-dessus.
Je trouve ce jugement sévère, mais c'est un jugement politique, purement politique.
C'est analytique.
D'accord. C'est analytique, ça n'a rien à voir avec l'homme que j'ai connu.
Bien sûr, mais vous ne pourriez pas me citer des grandes réformes structurelles.
Si je vous cite le musée du Quai Branly, vous allez me rigoler. Je sais que moi, il avait été me chercher parce que j'avais été communiste. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Et c'était la seule raison pour laquelle il avait voulu me rencontrer. La veille de l'élection de Mitterrand.
Donc il pratiquait déjà l'ouverture,
Pardon ?
Il pratiquait déjà l'ouverture.
Il aimait beaucoup les communistes.
C'était gaulliste.
Et ce 9 mai, il m'avait chargé, le 9 mai 81, après une conversation délirante qui serait longue à raconter, d'aller porter à Mitterrand un message comme quoi il serait prêt à être son premier ministre aux élections législatives suivantes. 9 mai 81.
Si la droite gagnait.
Non mais il était sûr que là, il savait que la droite gagnerait, ça on le savait, et que la gauche gagnait, il le savait absolument.
La droite pensait qu'elle gagnerait peut-être les législatives, il y aurait une sorte de contre-coup, on parlait du contre-coup,
Lui on était certain au point de me faire messagère pour Mitterrand, ce que j'ai fait.
Quelle lecture. Thomas en tout cas disait que ça n'a pas été un président réformateur, effectivement, et c'est vrai qu'on a du mal à placer de grandes réformes. Est-ce qu'il a laissé une France, en revanche, qui était plus apaisée que notre France d'aujourd'hui, qui était plus fière d'elle-même, plus tranquille ou pas du tout?
C'est la réécriture de l'histoire qu'on veut faire, mais 2006, c'est une crise majeure avec la jeunesse, 2 mois de lutte dans la rue contre le contrat première embauche, souvenez-vous quand même, et puis
et les émeutes
un recul.
De 2005, et l'automne 2005, les émeutes juste avant.
Voilà, avec 3 semaines, là aussi, Clichy-sous-Bois, Ziadé-Bouna, la fin du deuxième mandat de Jacques Chirac n'est pas du tout apaisée. En revanche, lui s'est posé en rempart républicain. Ça, c'est une construction, une constante après 2002, après sa victoire face à Jean-Marie Le Pen. Il n'aura de cesse de dire qu'il faut absolument être vigilant sur le racisme, l'antisémitisme, le respect de l'autre. Ça, c'est son combat jusqu'au bout.
Sophie, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Pardon de vous avoir fait patienter 25 minutes et 37 secondes. Allez-y.
Alors, moi, monsieur le président Jacques Chirac, écoutez, c'est pour moi comme un membre de la famille avec qui on n'est pas toujours d'accord, mais avec qui on peut dialoguer et avec qui on a une proximité et qui est un bon vivant. Et comme on sait, un bon vivant ne peut pas être profondément mauvais. Et puis, surtout, je voulais dire, c'était quelqu'un avec qui on se sentait en sécurité, prêt à tenir tête contre des puissants pour ne pas faire une guerre qu'il estimait injuste. Et ben rien pour ça, moi, vous voyez, chapeau. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire ce soir.
Eh bien, merci beaucoup, Sophie. Moi, je trouve ça intéressant, d'abord, le marqueur, encore une fois, on y a passé toute la première heure, mais le marqueur, c'est cette histoire de guerre qui a été extrêmement importante, le grand moment de 2003.
Il a gardé la maison.
Exactement. Voilà. Et cette sécurité dont parlait Sophie, est-ce que c'est aussi, avec le recul, au fond, on se dit c'était mieux avant? Ou est-ce qu'il y a eu vraiment ce sentiment-là, selon vous, à cette époque-là?
C'est que les Français ont envie de lui pardonner ce qu'il a fait de plus obscur, les affaires, les 2 ans de condamnation avec sursis pour détournement de fonds publics. Même Bertrand Delanoë, qui était son adversaire historique à la mairie de Paris, finit par trouver un arrangement pour que il n'ait pas l'amende à payer. Vous vous souvenez ça à la fin du mandat de Delanoë. Là aussi, il y a comme une envie de passer l'éponge, de passer outre.
Je suis pas sûr.
Mais c'était quand même un système. Il y avait quand même un système RPR.
Il fait partie de cette génération de politiques, d'hommes politiques. J'ai bien connu Mitterrand. C'était pareil. qui se baladaient avec des billets qui sortaient de leur poche, qui n'avaient qui ne tenaient pas les comptes, qui ne les connaissaient pas, qui n'avaient pas besoin d'argent, parce qu'on leur en donnait en permanence. Et ça, je crois que c'est beaucoup plus lié à ça qu'à un système. Alors, l'histoire des valises.
Le système a été condamné,
c'est
par les juges.
Que vous décrivez, là. Vous décrivez un système qui
non,
est.
Non, ça s'appelle pas un système, la mauvaise habitude de se balader avec des billets dans les poches.
Oui, mais la politique était comme ça.
C'est vous qui le dites.
Oui, c'est un système qu'on a pu condamner à un moment parce que les Français, à un moment, ne l'ont plus accepté.
Et que les cartes bleues n'existaient pas.
La carte bleue n'existait pas, mais enfin, sa gestion de la mairie de Paris, le clientélisme, tout ça, ça existait. C'est peut-être pas l'heure ni le moment de raconter tout ça, mais là, nous, on a aussi un devoir journalistique d'expliquer quelles étaient les années Chirac. Et c'est un homme qui a été apprécié des Français, qui maintenant est aimé des Français pour ses raisons, les raisons que notre auditrice
donnait. C'est qu'on peut plus faire de la politique comme Jacques Chirac faisait de la politique.
Mais bien sûr, on peut plus.
Non, personne ne donnerait une voiture de fonction au patron de FO comme il l'a fait, Marc Blondel. Il a donné gratuitement une voiture de fonction à Marc Blondel.
Ça ne se ferait plus.
Non, ça ne se ferait plus.
Et on dit toujours, est-ce que ça a été toujours le cas que Jacques Chirac n'a jamais payé un loyer parce qu'il a toujours su où habiter ici.
Même à la fin, avec M. Hariri qui lui...
Voilà. Catherine, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Soyez la bienvenue, Catherine.
Je vous remercie. Donc, moi, j'ai un témoignage professionnel. J'ai donc eu la grande chance de travailler donc à la mairie de Paris et d'être aux côtés du cabinet de Monsieur Chirac. Et je reconnais en lui un grand président avec des valeurs qu'il portait, une grande intégrité enfin vis-à-vis de le travail que nous fournissions et beaucoup de rigueur aussi, la proximité incomparable avec ses collaborateurs. Mmh. Toujours très souriant.
Et vous y avez travaillé longtemps, parce qu'on vous sent émue, Catherine, à la mairie de Paris.
Oui, je suis émue. J'ai maintenant un travail en Charente-Maritime, mais pour moi, ça a été un très beau début de carrière que d'être à la mairie de Paris où j'étais parisienne, mais j'ai dû muter en province pour des raisons aussi professionnelles et personnelles.
Merci,
voilà.
Catherine.
Et je dois aussi ajouter que c'était quelqu'un qui avait une grande beaucoup d'humour et beaucoup de charme.
Merci beaucoup, Catherine. Merci pour ce témoignage. Et moi, je trouve ça intéressant parce que, au fond, on a l'impression que dès que quelqu'un attaque le personnage de Chirac, il y a toujours une Catherine pour arriver derrière et pour dire, mais c'était un type très sympa.
Mais c'est l'erreur de Jospin. De Jospin. User, Vili, fatigué, ça lui revient en boomerang immédiatement. C'est l'erreur de Jospin de 2001-2002.
Et ça n'empêche pas, d'ailleurs.
Il était très sympa.
L'un va avec succès. L'un peut aller totalement également avec l'autre. Bonsoir, Marjorie.
Bonsoir.
On vous écoute, Marjorie.
Je vous appelle de Corrèze, du Sel, exactement, où Jacques Chirac a été très présent dans la vie de la ville, en fait. C'est avec de l'émotion, même si je n'étais pas forcément de son bord politique. Mais je trouve que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour nous ici. Et c'est quelqu'un qui, finalement, nous laissait penser que nous, à la campagne, en fait, on comptait, finalement, dans la France aussi, quoi. Et je trouve que c'est quelque chose que l'on retrouve plus aujourd'hui avec nos présidents, enfin après ce qui s'est passé après Chirac, quoi. Même François Hollande qui était de la Corrèze, ça n'a pas été pareil qu'avec Chirac, en fait.
Merci pour ce témoignage, Marjorie. Du coup, il me vient une question, pardon de faire de la politique fiction, mais moi j'aimerais bien savoir ce qu'aurait dit Chirac devant une crise des Gilets jaunes telle qu'elle s'est produite au moment des ronds-points au mois de novembre et au mois de décembre. Est-ce qu'elle se serait produite et au fond, est-ce que c'était en partie sa France à lui, ça, celle à laquelle il savait parler et il pouvait parler?
C'est son choix des 67, les législatives. Pompidou, c'est l'enfant chéri de Pompidou, qu'il a pris dans son cabinet, il lui dit « si tu pars à la bataille électorale, tu vas à Paris ». Il lui dit « non, j'irai en Corrèze ». Il a un grand-père corrézien, Jacques Chirac. Mm-hmm. Il j'irai en Corrèze, il y va, contre vents et marées, et c'est son choix. Il va vraiment, sur le territoire, faire la politique, on l'a dit 10 000 fois, au cul des vaches. Et le jour où il rencontre Alain Juppé, effectivement, la première chose que lui dit Jacques Chirac, Alain Juppé, c'est « est-ce que dans ta vie, tu as déjà tâté le cul des vaches ?» Mm-hmm. C'est ça aussi, Jacques Chirac. Et ça, cette proximité-là, quand on voit le parcours d'Emmanuel Macron, c'est pas du tout le même. Bien sûr qu'ils sont énarques, tous les deux, ils sortent des grandes écoles, des grands corps d'État. Ok, d'accord. Sauf qu'il y en a un qui part dans un parcours qui n'a rien à voir banque Rothschild, mm-hmm. l'autre qui va en Corrèze s'implanter durablement, 40 ans de vie politique, alors qu'Emmanuel Macron, bah, il saute toutes les cases, il ne passe pas par l'île locale.
C'est très compliqué de savoir ce qu'aurait fait Jacques Chirac, ouais. parce que la France d'aujourd'hui n'est pas la France de Jacques Chirac. La France périurbaine, où est né le mouvement des Gilets jaunes, n'existait pas vraiment à cette époque-là. Ouais. Donc il y avait pas cette même population, la sociologie des Français était différente, donc je pense que on ferait un anachronisme en essayant de tirer les lignes.
Et il a quand même eu une guérilla aux Invalides quand même. Les guerres de banlieue en Invalides.
Sur la place des Invalides,
donc franchement,
il a eu ça.
Il a eu ça. C'était pas les mêmes populations, c'était pas les mêmes motivations, mais il a eu ça en termes de violence.
Bien sûr,
de violence pure.
Maxime, bonsoir. Bonsoir Maxime.
Bonsoir.
Maxime, bonsoir. Vous êtes en train de faire baisser la moyenne d'âge. Allez-y.
Ouais, donc j'ai 31 ans et moi quand on évoque Jacques Chirac, ça me fait penser dans ma prime jeunesse d'abord aux Bébêtes Chaudes et ensuite après les Guignols de l'info avec le magnifique supermentaire que tout le monde doit connaître.
Et merci beaucoup Maxime, parce que oui, évidemment que pour cette génération-là, ça incarne ça, mais c'est ça aussi, il y a que ce personnage-là qui a évoqué ça, qui a eu sa marionnette à ce point-là, qui a été caricaturé au fond à ce point-là, et j'espère qu'on pourra en reparler tout à l'heure avant la fin de ce téléphone sonne, mais qui a été aidé aussi, on lui a tendu des ficelles au fond avec ses caricatures, Jacques Chirac.
Mais moi aussi j'étais bercé là-dedans, parce que c'est ma génération, et c'est seulement maintenant après coup, parce que moi je n'ai pas suivi comme Thomas... la vie politique de Jacques Chirac. Mais non, mais si, bien sûr, mais ça change beaucoup de choses d'être
prenez ça,
témoin.
Sûr,
non, pas du tout. D'être témoin d'un homme politique dans son action.
Clémenceau.
C'est pas ça que je voulais dire. C'est que du coup, moi, je l'ai vu comme ça à travers aussi les écrans, les images, les caricatures, les parodies. Et ce que je redécouvre aujourd'hui, ce qu'on me dit aujourd'hui de lui, comme Bruno Le Maire, à qui on a pu échanger tout à l'heure, disait, moi, je l'ai croisé dans des sommets internationaux, complètement déconnecté des discours, en train de lire un livre sur les Inuits, et terminer le livre pendant le sommet international. Parce qu'il était profondément cultivé. Intéressé par les peuples primitifs, par l'avenir de la planète aussi.
Premier, excusez-moi,
je me suis trompé de mot, pardonnez-moi. Et effectivement, c'est pas l'image qu'on en a. Il a été caricaturé, la gaudriole, etc. Mais derrière, il y a quelqu'un de profondément cultivé, et c'est pas un hasard si à la fin, ça donne un quai-branly.
Et évidemment, ça vous le savez parfaitement, Catherine Clément. Moi, est-ce qu'il l'aimait, son personnage, y compris caricaturé, au fond, Chirac?
Je crois qu'il s'en fichait éperdument. Mais je parlais des Inuits, moi j'ai assisté à son voyage officiel au Nunavut, justement chez les Inuits, et ça c'était tout à fait stupéfiant. C'était deux ans après l'autonomie du Nunavut. Le Nunavut, c'est l'État autochtone du Canada,
qui était
une révolution, c'était un premier État autochtone, il n'y en avait jamais eu. Maintenant il y en a en Inde, il y en a un peu partout, mais c'était le tout premier. Et il a tenu à faire un voyage officiel. On est arrivé à Iqaluit, qui est la capitale du Nunavut, il y avait trois baraques, et un gigantesque parlement en forme de traîneau, dans lequel il y avait un igloo, dans lequel il y avait éclairé à l'huile de phoque une vieille dame, et il a décoré le père de la nation Nunavutienne, si on peut dire, qui avait obtenu cette autonomie, et c'était stupéfiant de voir Jacques Chirac dans cet igloo, dans ce traîneau, dans ce nowhere.
Mais est-ce qu'on sait pourquoi il ne voulait pas le montrer, ce Chirac-là? C'est marrant d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, on ne fait que ça, justement, étaler beaucoup de culture et des connaissances avec des philosophes, etc. Est-ce qu'on sait pourquoi il voulait le cacher? Est-ce que c'était une espèce de pudeur, ou est-ce qu'il pensait que politiquement, ça n'allait pas le servir?
Je crois qu'il n'aimait pas beaucoup les intellectuels.
Oui, parce que politiquement, ça ne le servait pas, ou pas?
Faut pas trouver toujours des raisons stratégiques, parce que je vois pas pourquoi, politiquement, en France, en tout cas, ça le desservirait. On ferait un peu de psychologie de cuisine si on s'aventurait là-dedans, je ne sais pas, mais... Moi, je trouve ça très intéressant, c'est un aspect du personnage qui est vraiment très séduisant. Mmh. Ce que nous disait Hubert Védrine tout à l'heure, et qui était tout à fait vrai, c'est-à-dire que Jacques Chirac est un des rares personnages occidentaux qui s'intéresse à tous les peuples, pas simplement au peuple européen. Il n'y a aucun ethnocentrisme dans l'attitude de Jacques Chirac. Finalement, c'est une forme d'universalisme. Et c'est assez français, finalement, l'universalisme. Et donc, moi, je pense que tout ça participe de sa popularité post-pouvoir.
Moi, je l'ai suivi dans quelques voyages en Afrique, et chaque fois qu'il retrouvait les journalistes ou les amis ou les invités, il disait, vous avez vu, il n'y a que les jeunes, tous les autres sont morts du sida. Tout le voyage au pays africain, il ne pas, il ne parlait que de ça.
Oui, le sida, c'est quelque chose qui...
Ah oui, ça l'a beaucoup préoccupé. De même, le handicap sur lequel il a travaillé avec Julia Kristeva, ce qui se sait peu. Et il a eu comme ça des ouvertures absolument pas françaises, voilà.
Mmh. Bonsoir Jules.
Oui, bonsoir.
Jules, le dessinateur, Silex and the City, etc. Jules, bonsoir. On est content de vous parler.
Alors oui, en fait, ce qui est quand même étonnant, c'est qu'on oublie un petit peu que Jacques Chirac, enfin pour toute une génération de dessinateurs comme nous, c'est vraiment celui qui nous a servi de modèle principal. Bah oui. C'est à travers lui qu'on a commencé à faire nos armes. Mais en fait, avant de le dessiner par des centaines de fois dans Charlie, dans Lopes, etc., c'était aussi un personnage de notre enfance. Oui. Et du coup, moi j'étais dans une école un peu expérimentale, un peu dans le genre Montessori, et qui dépendait de la mairie de Paris. Et c'était l'époque donc où Chirac était maire de Paris, et on faisait plein de manifestations à l'âge de 4 ou 5 ans, on faisait des sit-in. C'est vraiment voilà, une école issue de la pensée mai 68, il n'y avait que des enfants de psy et de profs, et on détestait Jacques Chirac. C'était vraiment un personnage, c'était un croque-mitaine. Et alors moi j'ai appris un mot pendant ces manifs, je devais avoir 5 ans, je me rappelle j'étais en maternelle, et on dessinait comme ça à travers les rues de Paris en chantant Chirac, croque-mort, De Croly n'est pas mort. C'est le De Croly, c'est le nom de l'école. Ah. Et j'ai appris le même jour le mot Chirac et le mot croque-mort. Donc ça reste pour moi complètement deux termes liés, bizarrement.
Et est-ce que vous pouvez nous dire, Jules, parce que moi je l'ai vu, parce que vous me l'avez envoyé, disons les choses, ce que vous avez dessiné, vous, aujourd'hui, le jour de la mort de Chirac, en fait, quelle est la chose qui vient à l'esprit quand on est un dessinateur de votre génération?
C'est très difficile de synthétiser, de faire un dessin de synthèse quand quelqu'un disparaît. On ne sait pas par quel morceau, par quel bout le prendre. Donc on va vers le symbole. Alors des gens comme Plantu dessinent des colombes de la paix, des petites souris. Moi, c'est pas tout à fait mon style. Mais du coup, j'ai repris évidemment cette figure de la pomme qui était voilà le Chirac de manger des pommes, qui était déjà le Chirac digéré par la pop culture des guignols de l'info. Et là, pour le coup, j'ai juste dessiné un titre Chirac est mort et avec en fait un trognon de pomme qui a été croqué. Et donc voilà ce qui reste. Voilà, une pomme croquée de ces longues années chiraciennes.
Merci beaucoup, Jules. Ça veut dire qu'il a été digéré. Merci vraiment. Ça veut dire qu'il a été digéré au fond, si la pomme a été croquée.
Et que les pépins ont été semés. Et que les pépins ont été semés.
Et que les pépins ont été semés, peut-être.
C'était un vorace, donc, effectivement. Mais
ah oui, c'était un vorace.
Effectivement, ce que dit Jules est intéressant parce qu'il y a une période, à la fin des années 70, où Jacques Chirac, pour les gens de gauche, c'était quasiment un fasciste. D'abord, il avait une tête un petit peu martiale, comme ça. Il marchait vite, il avait les cheveux tirés derrière, comme ça, gominés. Il faisait peur à la gauche. Et Catherine Clément, qui maintenant est amoureuse, donc...
ça va.
Jusqu'à ce qu'il fasse l'Élysée Mitterrand en 80.
Mmh. Oui, voilà.
Il a fait moins peur après.
Oui.
Bien sûr. Mais il avait cette image-là.
Mais je sais ce qu'il adoucit aussi le personnage.
Cette énergie très droitière. Et puis, une fois au pouvoir, même à Paris, il s'adoucit. Donc il est très rugueux pour prendre le pouvoir et très doux au pouvoir.
Et on lui avait fait enlever ses lunettes. Ce sont des détails, mais ça compte aussi pour enlever cette image extrêmement dure, extrêmement anguleuse qui était la sienne au départ et qui il essayait de travailler.
Il a changé beaucoup d'images. Il avait un peu un physique de playboy. Mais pour revenir à cette dichotomie entre conquête du pouvoir et exercice du pouvoir, c'est à son propos que Michel Rocard avait dit les qualités qu'il faut pour avoir le pouvoir ne sont pas celles qu'il faut pour l'exercer dans le cadre de la Ve République.
Et on a beaucoup parlé au cours de cette émission justement de l'image pop culture que pouvait avoir Chirac et comment, y compris aujourd'hui, une France de trentenaire peut s'en souvenir. Bonsoir Yves Le Roland.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. C'était vous, le producteur artistique des Guignols. Vous l'avez été pendant 21 ans et au fond, vous le savez, vous avez contribué, que vous le vouliez ou non, vous avez contribué à lisser l'image de Jacques Chirac, peut-être même à lui faire gagner l'élection, allez savoir.
Oui, ça c'est un peu une légende à mon avis, parce qu'on n'a pas toujours été très gentil avec lui. Mais en fait, moi quand j'ai appris la mort de Jacques Chirac, évidemment tout le monde me dit « Ah, vous avez tellement fait pour lui », mais je pense surtout que c'est lui qui a fait beaucoup pour l'émission. Et je pense que l'émission n'aurait pas été aussi célèbre, n'aurait pas rencontré autant de succès si Chirac n'avait pas existé.
Alors, c'est sûr, mais très honnêtement, à un moment, vous avez senti que la sympathie qu'il avait vis-à-vis de votre personnage, celui des Guignols, et la remontée des sondages était un peu concomitante, non, sincèrement?
Bah oui, mais enfin, c'était plutôt nous qui le suivions, je pense. Que
super menteur.
Après, là où il a été très très malin en 95, c'est que il a récupéré le manger des pommes et il en a fait un véritable slogan. Donc ça, c'était son côté malin. Il sentait bien les choses, quand même.
Et est-ce que dans ces cas-là, on se dit arf, peut-être que du coup, nous, on a été un poil trop loin, mais pas dans le sens que dans lequel nous voulions aller, en fait.
Effectivement, c'était un moment un petit peu dangereux là. Quand on commence à mélanger la caricature, la fiction et la réalité, c'est toujours dangereux, et surtout pour les gens qui font de la caricature. Mais bon, finalement, le personnage était tellement extraverti et il nous a tellement inspiré que, franchement, lui, on n'a pas voulu d'avoir récupéré le manger des pommes.
Mais du coup, il l'aimait, ce personnage. Vous avez l'impression qu'il l'aimait ou pas?
Écoutez, moi, j'ai eu juste une anecdote, c'est que je crois que la seule fois où il a été vraiment pas content, c'était dans les années 92-93, je tiens cette anecdote de Pierre Lescure, parce que moi je n'y étais pas, et il croise Jacques Chirac dans les toilettes du PSG au Parc des Princes. Il était encore maire de Paris et ils étaient tous les deux dans leur urinoir, et Chirac s'est mis à gueuler en disant c'est un scandale ce que vous faites sur moi et tout. Et c'est la seule fois où il était vraiment pas content. Et puis après, effectivement, comme vous le disiez, avec la remontée des sondages, 94, voilà. Balladur, tout ça. Là,
et
ça
il a regardé sa après. Propre image avec différemment. Je suis obligée de vous couper parce qu'on va on va devoir se quitter. Pub d'abord, intervention du président juste après.